De manière régulière, nous allons visiter les libraires de la région. Là, il est question de la librairie du Petit Pois que tient agréablement Isabelle Maloberti, qui dirige sa librairie avec son aide de camp Hugo, qui nous invite évidemment à la lecture. Il regorge de trésors littéraires, de romans, d'essais, de poésie, de loisirs ou bandes dessinées. Le choix est vaste. Et puis, à l'approche des fêtes de Noël, allez jeter un petit coup d'œil. C'est une petite librairie de quartier bien achalandée avec des gens qui lisent vraiment les livres qu'il y a dedans. On va commencer par Hugo qui nous délivre deux coups de cœur pour deux livres bien différents et ensuite on retrouvera Isabelle qui nous délivrera aussi ses deux coups de cœur pour deux ouvrages et elle nous lira même un passage. Hugo dans un premier temps et Isabelle Maloberti. Le coup de cœur d'Hugo.
Mon coup de cœur du moment, c'est L'ensorceleur des choses menues de Régis Godin. C'est de la littérature de fantasy. On va suivre l'histoire d'un magicien qui a passé toute sa vie à travailler sur des sortilèges de choses menues, justement, donc des petits sortilèges de réparation. Il a toujours été là-dedans. Et un jour, une jeune fille va se présenter à lui. Il va être emmené dans son aventure. Justement, l'art des choses menues n'est pas suffisant pour survivre. Et du coup, c'est une sorte de... C'est un roman... un voyage d'initiation, sauf qu'au lieu d'être dans la veine des romans d'initiation où on suit un jeune garçon, une jeune fille qui découvre des choses et qui devient extrêmement fort, là on va suivre une personne à la retraite qui est en fin de vie mais presque et qui va devoir un peu se remettre sur les rails. C'est dans la veine des romans de fantasy avec de la magie, j'irais pas dire jusqu'au Seigneur des Anneaux mais c'est dans la même veine et c'est vraiment bien. C'est quand son père vient à mourir qu'un homme sait qu'un enfant vieillit. Perdu, il regarde derrière lui, n'y trouve qu'un quiconque et cherche un cap que personne n'est plus là pour fixer. Puis il se tourne vers ses propres héritiers et lit avec effroi dans leurs yeux l'unique question d'importance. « Papa, où allons-nous ? » Il n'en sait rien, bien sûr, le papa. Il devient soudainement adulte et fait connaissance avec la peur. Alors maintenant, je vais parler d'un autre roman. Il y a à mi-chemin un roman fantastique et un roman de science-fiction. C'est Astar Mara, Les Chemins d'eau, de Brice Tarvel. L'histoire prend place dans un monde qu'on peut dire classique, à l'époque de la piraterie. On n'a pas beaucoup d'informations sur l'époque. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui était esclave d'une sirène et qui va s'échapper en lui volant... un bien plutôt précieux qui va lui permettre en fait de détecter les dangers en mer. Du coup, elle va être embauchée par une bande de pirates qui va se servir d'elle pour chercher les trésors qui sont justement cachés un peu partout. Et au fur et à mesure du roman, on va montrer que c'est pas vraiment un roman fantastique, c'est plus de la science-fiction parce que justement, ça se passe après une catastrophe mondiale dans notre monde et du coup, où en fait la civilisation est retournée à une époque un peu plus ancienne. On va rencontrer des sous-marins, des immeubles, enfin c'est vraiment surprenant comme construction du récit. Et en fait justement cette jeune fille qui va être partie pour être une pirate va être poursuivie par cette sirène et donc toute l'aventure ça va être de lui échapper. Et bien sûr il y a une confrontation finale, j'en dis pas plus. Elle s'éveilla avec la sensation qu'un jour plus vaste que les autres s'annonçait. Un jour plus chargé d'heures, prometteur d'événements, petits ou grands, qui ne serait pas négligeable. Ce n'était cependant qu'une impression, n'est-ce pas ? Le genre de sentiment n'est de rien, vous surprenant au lever et n'ayant le plus souvent ni queue ni tête.
Aujourd'hui, j'ai choisi deux livres. Premier, L'imprudence, qui est paru là à la rentrée de septembre, de Lou Huifang, aux éditions Actes Sud. C'est un petit livre, mais qui est très beau, qui est sur l'exil. Le personnage principal est une jeune femme. Sa grand-mère est née au Laos et à l'âge de 12-13 ans, elle a fui le Laos et ses parents pour partir au Vietnam en bus. Et elle a eu beaucoup de chance puisqu'elle a atterri dans un des meilleurs restaurants de Savannakhet où elle a été employée par une dame. Donc c'est sa petite fille qui va raconter cette histoire d'exil. Elle vit à Paris, ses parents ont fui le Laos au moment du communisme en bateau. Ils sont arrivés donc le père, la mère, un grand frère et une petite sœur en Normandie. Et donc c'est cette jeune femme qui raconte son histoire. Et donc, c'est aussi à partir du moment où ils reçoivent le soir un coup de téléphone, tout le monde est inquiet et voilà, ils apprennent le décès de la grand-mère maternelle. La maman, qui est la fille, et les deux enfants vont partir pour enterrer cette grand-mère. à la fois un très beau livre sur l'exil, où on voit les différentes façons d'arriver en France, puisque ça va être à la fois différent pour les parents qui ont vécu dans leur pays, et après pour les enfants, le frère n'arrive pas à se sentir français, et du coup il va un peu tout arrêter, alors qu'il avait il était brillant au ping-pong, il avait des amis, mais il n'arrive pas à se sentir français, et du coup il va habiter chez les parents. Et la jeune fille, elle, c'est tout à fait différent, puisqu'en fait, en vivant en France, après son indépendance, elle travaille avec un grand photographe. Elle fait elle-même de la photographie, ça l'aide beaucoup à évoluer dans la vie. Et grâce à son père, elle apprend une certaine liberté, elle vit dans son appartement. Et c'est vraiment un livre aussi sur l'exil et sur la capacité à apprendre, à réaliser qu'on peut être libre grâce à son corps. Elle se sent complètement libre, elle se sent, je pense, oui, à peu près intégrée, mais aussi quelque part vietnamienne, puisque quand je vais lire le passage, vous allez voir, puisqu'en fait là, elle se trouve à Savannakhet, et il y a une jeune fille qui, elle, était amie de sa grand-mère, qui a quelque part un peu remplacé cette petite fille qui est partie, puisqu'elles ont le même âge, et elles ont deux destins totalement différents. Et il y a un parallèle entre ces deux jeunes filles, et justement là, elles vont au bord du fleuve, et elles lui demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'être française, comment c'est la vie en France? Et là, la jeune narratrice va lui répondre. Comment sont les jours en France? Quelle est la vie d'une Française? Je souris. D'une Française, je ne sais pas. La mienne est complexe, pleine de double fond. Pourquoi? Demande-t-elle. Je prends un petit temps pour bricoler une explication avec mes quelques mots vietnamiens. Cela tient à ce léger décalage, dis-je. La carnation est à peine plus brune, la diction vierge de tout accent. Je pourrais ressembler à une Française, mais ce n'est pas le cas. Tout se joue sur le visage. La vie se décide à partir de là. J'aimerais penser qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas de déterminisme, que les individus éclairés peuvent échapper à ce genre de paramètres. Mais c'est faux. J'ai grandi dans la banlieue de Cherbourg. Et là, le comportement de tous ceux qui me regardent, quelle que soit leur perméabilité aux préjugés, est contaminé par cela. Phénomène à peine moins perceptible à Paris. C'est ainsi. Au premier regard, cela est prononcé. Je ne suis pas d'ici. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Je sais qu'on le sait. Et cette chose est posée là, entre les autres et moi. Ce n'est pas forcément tragique. Certains finissent par l'oublier. Ils traversent l'indication première. Ils regardent le visage nu. Nous nous rencontrons alors. D'autres s'en tiennent à cela et raisonnent par rapport à cette dissemblance. Je suis à leurs yeux la Vietnamienne qui, celle-ci fera défaut, elle est froide, distante, sournoise, ou bien excellera en toute chose, toujours discrète, serviable, travailleuse. L'exotisme de la Vietnamienne, qui est une usine à stéréotypes, dépréciatif ou gratifiant. Ils disent la même chose, dans le fond, une xénophobie plus ou moins assumée.
Second coup de cœur.
La vie en chantier, de Piet Fromm, aux éditions Gallmeister, que j'aime beaucoup, et qui donc ne publie que des livres d'auteurs américains. Ça parle souvent de grands espaces, alors là, celui-ci est un peu différent, ça parle d'un drame de la vie. C'est un jeune couple qui vit dans le Montana, ils ont à peine 30 ans, s'entendent à merveille, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont acheté une vieille maison, le monsieur est menuisier, il le restaure avec sa compagne, et puis un beau jour, sans prévenir, cette jeune compagne va tomber enceinte. Donc, bon, c'était pas prévu, mais ils s'en réjouissent. Et au moment de l'accouchement, donc je peux en parler puisque c'est au tout début du livre, cette jeune femme va mourir. Et donc ça va être la reconstruction de son compagnon qui est tout jeune et qui se retrouve avec une enfant qui vient de naître, une petite fille, Midge. Et on va suivre évidemment une période de dépression totale où il ne peut plus dormir, où il n'arrive plus vraiment à avancer. Mais justement, grâce à ses amis, à la maman de cette jeune fille qui est décédée et à sa fille, il va petit à petit reprendre pied, reprendre le travail et reconstruire une nouvelle vie. Et c'est aussi un très beau livre, donc sur cette capacité qu'ont les hommes à traverser des drames et à s'en sortir, mais aussi ce qu'apportent mutuellement l'enfant et le parent. Voilà, c'est pas le parent qui donne tout, comme parfois on peut l'entendre, mais c'est bien cet échange entre les enfants, enfin entre cet enfant et son père, et comment à eux deux ils vont réussir à mener une nouvelle vie. Jour 417. Il émerge de la nurserie. Dans la lumière grise, juste avant l'aube. Il va à la salle de bain, s'assied dans l'obscurité, un matin comme les autres. Lorsqu'il sort, au lieu de traverser le séjour pour aller préparer le café, il s'arrête dans le couloir, le regard tourné vers leur ancienne chambre. Un pas, deux. Il s'immobilise dans l'embrasure de la porte, une main de chaque côté du cadre. La chambre respire encore au rythme de Marnie. La nuit, sur le rideau de douche, son sursaut le lendemain matin, la perte des os, il n'arrive pas à croire qu'il n'ait jamais remplacé le matelas. Il se met à cogner sa tête contre le montant, sa première montée de bile depuis des mois.